On a eu des beaux baptêmes la semaine passée, n'est-ce pas? C'était glorieux de faire ça à l'Assomption, dans notre Jourdain local. Hein? C'était bon. Il y en a qui se demandaient pourquoi que vous n'avez pas fait vos baptêmes. Là, depuis, ça fait 24 années qu'on fait des baptêmes à tous les ans. Il n'y a jamais eu une année qu'on n'a pas eu de baptême. Mais en fait, il y a 20 ans, la rivière L'Assomption, c'était pas possible de se baigner dedans. Elle était polluée. Et puis, en fait, ils commençaient à la dépolluer à ce moment-là. Et ça fait juste depuis à peu près 5 ans que l'eau est déclarée comme baignable. Alors, c'est pour ça qu'on faisait pas ça là avant. On avait pris des habitudes d'aller dans des camps puis tout ça. Mais là, on va commencer à faire ça. On a commencé cette année à faire ça à l'Assomption. On trouve ça vraiment glorieux de faire ça localement et dans un parc avec plein de gens autour. Il y a des gens qui étaient pas de l'église puis qui applaudissaient quand les gens sortaient de l'eau. C'était beau à voir. Alors, c'était vraiment un beau dimanche. Un bel événement. La semaine passée, j'ai apporté un message qui avait un peu rapport avec les baptêmes. C'était Maître et Seigneur. Et j'invitais un petit peu l'Église à renouveler leurs vœux, comme les baptisés qui s'engageaient envers le Seigneur à ce qu'il soit leur Seigneur. Et comme je vous avais partagé, c'est toutes des gens qui étaient déjà sauvés parce qu'ils avaient ouvert leur cœur à Jésus, ils avaient reçu le Saint-Esprit, mais à leur baptême, ils s'engageaient à ce que Jésus devienne leur Seigneur, le Seigneur de leur vie. Et mon message était pour l'Église, parce qu'il faut constamment, l'Église, se souvenir de notre engagement et de refaire à chaque jour de Jésus notre Seigneur, c'est-à-dire celui qu'on suit, celui qu'on obéit et celui qui est finalement la lumière de notre vie. Hein? La lumière pour savoir comment ne plus vivre et comment vivre maintenant, comment ne plus penser et comment penser maintenant. C'est lui qui renouvelle nos pensées constamment. Mais pour ça, ben, on a affaire de lui, notre Seigneur. Lui, sa part est faite. Il l'a faite sur la croix. Il est allé jusqu'au bout. Mais notre part, c'est de refaire de lui notre Seigneur. Et mon message d'aujourd'hui, ben, c'est un petit peu une suite de tout ça. Hein? On a parlé d'engagement la semaine passée. Là, on va parler d'action, de mise en action de Jésus notre Seigneur. L'Église a passé à travers les 2000 dernières années par des temps de gloire et des creux. Et les creux dans l'histoire de l'Église ont toujours été causés par la même chose. Ça a toujours été par... Ça a passé par un relâchement dans la seigneurie de Jésus dans nos propres vies. C'est-à-dire qu'on a passé de Jésus Seigneur à on croit en Jésus, on va à l'Église, on fait les rituels, mais dans notre vie quotidienne à tous les jours, il n'est pas vraiment Seigneur. Hein? C'est nous autres qui redevient le Seigneur de notre vie. Et Jésus est vraiment Seigneur quand on marche avec lui à tous les jours. Et donc, quand le Saint-Esprit est le maître de notre vie à tous les jours. Jésus dit, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est sa part à lui. Mais notre part à nous, c'est chaque matin quand on se réveille, comme on l'a chanté tantôt, il est le Seigneur de notre vie cette journée-là. Et c'est lui qui décide pour nous. Et on décide de suivre et de vivre selon ce qu'il a pour nous. Bon, on dirait que c'est jamais mon affaire. Bon, OK. Je vous remets un petit passage d'un livre que je lis et que j'ai mis la semaine passée. Et c'est dans le livre L'Essentiel Anabaptiste de Palmer Becker qui dit « Jésus devient Seigneur quand nous nous engageons à le suivre dans notre vie quotidienne. » Et on peut, je pense, tous témoigner les uns aux autres que des fois, on dirait qu'il y a des blocages pour que Jésus soit vraiment le Seigneur de notre vie. Des blocages pour que ce soit vraiment lui qui dirige et que ce ne soit pas nous. Quand Jésus dit, c'est pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui vont rentrer au royaume des cieux. Hein? Il est en train de parler de ceux qui disent le mot « Seigneur » mais qui n'est pas vraiment le Seigneur de notre vie. Et Jésus est en train de nous dire, le ciel, moi, je le bâtis avec ceux que je suis leur Seigneur à tous les jours de leur vie. Ceux qui veulent que je règne sur eux. Hein, pas juste ceux qui ont à un moment donné fait la prière de repentance, qui vont à l'Église pour libérer leur conscience, mais que je ne suis pas leur Seigneur. Moi, je bâtis mon royaume avec ceux qui veulent que je sois leur Seigneur. Donc, l'histoire se répète sans cesse. Hein. Les chrétiens se refroidissent au courant de l'histoire. Là, je parle des 2000 dernières années. Peu à peu, l'Église devient tolérante. L'Église se refroidit aussi. Tout le monde continue d'avoir l'air chrétien en superficie, mais la présence et la puissance de Dieu n'est plus là. Hein? Ça les quitte. La souffrance s'installe, l'incohérence, et finalement, il y a une génération qui dit « ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure, c'est pas ça que la Bible dit ». Et là, il y a un réveil. Et là, les gens reviennent à Dieu. Et c'est intéressant quand tu lis l'histoire de l'Église, hein, ça, c'est une roue qui tourne sans arrêter. Jésus, il dit, « Moi, je suis le vrai plant de vigne, et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les purifie, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez pas porter aucun fruit. » Donc, Jésus est en train de parler, c'est intéressant ici, à des gens qui ont été purifiés déjà. Parce qu'il dit, hein, il dit qu'ils sont déjà, vous avez déjà été purifiés. Donc, pourquoi qu'il leur dit ça? C'est parce que même s'ils ont déjà été purifiés, ils ont besoin à chaque jour de rester accrochés à Christ pour pouvoir continuer à être purifiés et pour pouvoir rester purifiés. Jésus sait très bien de quoi on est fait et il sait très bien comment c'est facile pour nous d'avoir été à un moment donné sous sa lumière et tranquillement s'en éloigner. Il les invite, restez en moi, afin que vous continuiez à être purifiés et que vous goûtez vraiment à ce que j'ai pour vous, à ma bonté et ce que je veux faire avec ma bonté. Un peu plus loin, il dit, « Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. » On retrouve tellement le désir de Dieu pour son peuple, pour ses fils, pour ses filles, est toujours le même. Qu'on soit heureux, qu'on soit libéré, qu'on soit libre, qu'on soit bien, qu'on voit tout ce que lui voit, toute cette gloire-là, et qu'on ait cette puissance de changer le monde. Est-ce qu'on désire être une église remplie du feu de Dieu et portant plein de fruits? Oui. On a le goût de ça. Belize, on a le goût de ça. Est-ce que je désire être un chrétien rempli du zèle de Dieu et porter plein de fruits? Pour le vrai, j'ai le goût de ça. Amen. Donc, si la réponse est oui, on est appelé à enlever les obstacles. Chacun de ceux qui ont été sauvés et qui ont dit oui à Jésus un jour, ça ne finit pas là. Dieu nous invite à enlever les obstacles qui nous empêchent de faire que Jésus est vraiment notre Seigneur à tous les jours de notre vie. Afin qu'on voit sa gloire, afin que le royaume des cieux vive en nous et se répande autour de nous, par nous. Amen. Depuis Ésaïe, Dieu demande ça. « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Comportez-vous en gens saints et soyez saints, car je suis saint. » C'est fort, hein? « Comportez-vous en gens saints et soyez saints, car je suis saint. » Hein? On a plutôt tendance à dire, « Ben là, il ne faut pas être plus catholique que le pape quand même. » Pourtant, la Bible, elle ne nous dit pas ça. La Bible, elle nous dit qu'il faut être plus catholique que le pape. Il faut être saint, comme Dieu est saint. Et tant que vous n'avez pas atteint cela, cherchez-le. C'est ce que Dieu nous demande. Pierre, lorsqu'il parlait, l'apôtre Pierre, aux chrétiens de leur temps, leur rappelle cela parce que il sait, Paul sait, Pierre savait que l'ennemi cherche constamment, il l'a fait avec lui-même, à nous éloigner des bénédictions de Dieu et de nous éloigner de Dieu. Non? Et le seul antidote, c'est d'être vigilant, à ne pas se laisser glisser peu à peu vers ce qui n'est pas de Dieu. Pierre, il dit, « Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois. » Donc, il parle à des gens qui ont accepté le Seigneur, okay, qui sont devenus chrétiens, qui ont reçu le Saint-Esprit et que l'Esprit-Saint est en eux. Là. C'est à eux qu'il parle. On pourrait se dire, « Pourquoi il y a besoin de leur dire ça? Jésus est en eux. Ça va se faire tout seul. » Pourtant, la parole dans le Nouveau Testament est claire. Ça se fait tout seul, oui, si on veut. Et comment qu'on fait pour vouloir? Bien, on cherche Dieu. Hein? On en fait une priorité. « Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, et il cite ce qu'on vient de lire dans Isaïe. « Soyez saints, car je suis saint. » Donc, ce n'est pas quelque chose de l'Ancien Testament, c'est quelque chose que Pierre reprend pour nous, les chrétiens. Donc, les stratégies de l'ennemi sont toujours les mêmes, hein? pour le peuple de Dieu. Hein? Bon, ce n'est pas si pire. Ce n'est pas si gros péché que ça. Hein? C'est une zone grise. Hein? C'est pas... Dieu est tolérant, après tout. Hein? Dieu, il est plein de grâce. Il fait grâce. Il comprend vos faiblesses. Donc, c'est correct. Vous pouvez continuer dans vos faiblesses. Dieu va pardonner de toute façon. Hein? Dieu pardonne. Ah, c'est plus pareil aujourd'hui. C'était le même dans ce temps-là, mais aujourd'hui, ça a changé. Hein? L'être humain, il n'est plus pareil. Dieu n'est plus le même. Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Et l'être humain n'a pas changé depuis Adam et Ève. Hein? Il n'y a pas eu d'évolution chez l'être humain. L'être humain est le même. Pour Dieu, il n'y a pas de zone grise. C'est blanc ou noir. C'est lumière ou ténèbres. Il n'y a pas entre les deux. Pour Dieu, il n'y a pas d'époque. Il est toujours le même. Et Paul le décrit bien dans 2 Corinthiens 6, 14. Il dit, « Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. » Et là, je vais continuer dans ce passage-là, mais je vais vous dire, il faut faire attention avec ce passage-là. Dans l'histoire, beaucoup souvent, l'Église a voulu se mettre complètement à part, s'isoler dans des monastères, soit faits de pierre, mais des fois dans des monastères personnels. Il y a eu une époque, il y a quelques, pas si longtemps que ça, où les chrétiens étaient tout le temps ensemble, puis n'allaient jamais, comme Belize le fait, avec son équipe, dans le monde. Ils s'isolaient. Aussitôt qu'ils finissaient leur job, ils s'en allaient à l'église, puis tu sais, ils étaient complètement hermétiques. Et c'est pas ça. Jésus a vraiment prié avant de partir. « Seigneur, je te prie de ne pas les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait avec ce verset-là. Dieu, il veut qu'on soit au milieu du monde, au milieu du péché qu'il y a partout autour de nous, au milieu des voix qui ne sont pas de Dieu, au milieu des non-croyants, au milieu des athées, au milieu de... Il veut qu'on soit là pour briller. Mais il veut que nous, on se préserve du mal. C'est la prière de Jésus et c'est ce qu'il demande pour nous autres. Donc, quand on lit « ne formez pas un attelage disparate », il veut dire « n'entrez pas dans leur façon de penser, dans leur façon de faire les choses, de voir les choses. » Le travail au noir, ça ne sera jamais de Dieu. Même si c'est à la mode, même si ça se fait, ça ne sera jamais de Dieu. Parce que noir égale ténèbres. On ne peut pas avoir du travail au noir. La fraude, ça ne sera jamais de lui. Dieu est lumière. et il veut qu'on vive dans la lumière comme lui. C'est ça qu'il nous demande quand il dit « Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. » Il continue en disant « En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre le Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple de Dieu vivant, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. » Et encore là, ce n'est pas physiquement, mais c'est avec nos pensées, avec nos modes de vie, okay? Avec nos choix. Dit le Seigneur, « Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » C'est fort, hein? Il dit à son peuple, il parle à son peuple, les croyants, « Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Marcher avec le Saint-Esprit, c'est conditionnel. Quand même qu'on voudrait de tout notre cœur, si on fait des choix qui n'est pas en accord avec lui, bien, il ne peut pas marcher avec nous autres. Il peut juste marcher avec nous, avec toute sa puissance, sa grâce, sa gloire, son esprit de régénération, son esprit qui libère, si on fait des choix de marcher selon ses voies à lui. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Donc, notre marche quotidienne avec Dieu, avec son assistance, vient avec ses conditions de faire de lui notre Seigneur à chaque jour, de marcher selon ses commandements, ses pensées, ses voies. Oui, Dieu est plein de grâce pour pardonner. Sa miséricorde est nouvelle à tous les matins. Et ça, on ne le dira jamais assez. Et il ne faut jamais vivre dans la honte. Il faut toujours croire en son pardon. Il faut toujours croire qu'il nous accueille, peu importe le mal qu'on a pu avoir fait, et qu'il va nous reprendre, et qu'il va nous pardonner, et qu'il va nous relever. Dieu est un Dieu de grâce. Mais dans notre marche à tous les jours, si on veut vivre l'épanouissement, la gloire, la puissance de Dieu dans notre vie de tous les jours, il faut marcher dans la sainteté. Il faut chercher la sainteté constamment. Mon message de ce matin, c'est le thème de notre semaine de prière qui commence demain. Okay? Donc, à partir de demain, notre salle ici va être ouverte de 9h le matin à 9h le soir. Tous ceux qui veulent, tous ceux qui ont du temps, tous ceux qui veulent prendre un peu de leur temps pour venir prier, se recueillir, soit seul dans un coin ou prier ensemble, les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Okay? Faites-le, venez et utiliser cet endroit où il va y avoir de la prière constamment. Des fois, c'est plus facile que chez nous, dans le brouhaha de tout ce qui se passe. Okay? Bien entendu, c'est un appel à l'Église pour toute la semaine aussi, à le faire là où vous êtes, à votre travail, chez vous, en vous levant, en vous couchant, quand Jésus vous réveille, comme quand vous vous endormez. Okay? On veut vraiment prendre une semaine en tant qu'Église avec ce thème pour la semaine de prière. Purifie mon cœur. Et c'est ça le thème de notre semaine, c'est ça le titre de mon message ce matin. Purifie mon cœur. C'est un style de vie que tous ceux qui suivent Dieu, autant dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, ont décidé d'adopter. C'est une réponse à l'appel de Dieu. Soyez saints comme je suis saint. Purifie mon cœur. Ça a l'air très personnel. Ça a l'air d'être centré sur moi. Purifie mon cœur. Mais c'est très, très communautaire. Savez-vous pourquoi? Parce que si je dis à Dieu, purifie mon cœur, ça n'a pas juste un impact sur moi. Ça a un impact sur mon couple. Ça a un impact sur ma famille. Ça a un impact sur mon environnement, le travail ou peu importe. Ça a un impact sur mon église. Ça a un impact sur le monde. Donc, purifie mon cœur, c'est très communautaire. Et si on choisit d'avoir ce mode de vie-là, Seigneur, purifie-moi. À chaque jour, purifie-moi. C'est incroyable l'impact que ça va avoir, non seulement en nous, mais autour de nous. On ne peut pas dire « purifie son cœur ». Il faut que lui le dise, ou elle. « Seigneur, purifie le cœur de ma femme. » Non, mais ça ne marche pas. Il faut que ce soit elle qui le dise. Hein? Je peux juste dire « purifie mon cœur ». C'est juste ça qui marche. On a beau prier pour Vladimir Poutine, « Seigneur, purifie son cœur. » Mais tant que lui ne dira pas « Seigneur, purifie mon cœur », ça ne fera rien. Il faut prier pour lui, par exemple. Parce que quand on prie pour quelqu'un, il faut prier pour les uns les autres, parce que quand on prie pour quelqu'un, Dieu brasse les affaires autour de lui. Okay? Mais il ne peut pas purifier le cœur de personne tant que la personne n'a pas dit « Seigneur, purifie mon cœur. » Mais regardez à quel point ça peut être communautaire. La journée que Vladimir Poutine va dire « Seigneur, purifie mon cœur », les choses vont changer dans le monde. Vraiment. Voyez-vous à quel point ça peut être communautaire de dire « Seigneur, purifie mon cœur ». Et c'est le même pour chacun de nous autres. On pourrait dire aussi, à place de « purifie mon cœur » comme test, comme titre de la semaine, au thème de la semaine, on pourrait dire « Seigneur, purifie nos cœurs ». Mais ça a un risque de se déresponsabiliser puis se mettre à souhaiter que l'autre, son cœur soit purifié. C'est pas mal plus puissant « purifie mon cœur ». Et si tout le monde embarque, ça va être une bombe. Amen. J'ai besoin d'être changé. J'ai besoin d'être transformé à son image. Le thème de notre année 2022, c'est « Créer à son image ». J'ai besoin que Dieu purifie mon cœur. J'ai de la misère avec mes notes, ils ne veulent pas monter. Bon. Amen. Partout dans l'histoire biblique et depuis l'histoire biblique, les personnes qui ont fait de leur vie un pèlerinage qui recherche la purification ont été ceux qui ont fait avancer l'œuvre de Dieu. Plus que les talents, le charisme, les dons, Dieu cherche le désir de pureté. Dieu, il se plaît avec les cœurs brisés. C'est là qu'il peut agir. Dans l'Ancien Testament, les peuples, bon, quand on lit l'histoire, constamment, ils s'éloignaient de Dieu. Tout allait mal. Le peuple revenait à Dieu. Ça allait mieux. Ils s'éloignaient de Dieu. Tout allait mal. Et souvent, on a comme prétexte, ouais, mais c'est normal parce que dans l'Ancien Testament, les gens n'étaient pas nés de nouveau, donc c'est normal que ça se passe de même. Mais pourtant, quand on regarde l'histoire depuis Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, il se passe la même affaire dans l'Église. Les gens ont beau accepter Jésus, Jésus a beau être mort sur la croix, on a beau naître de nouveau, on regarde dans l'histoire de l'Église, puis il se passe la même affaire. L'Église se refroidit, l'Église s'éloigne, elle laisse rentrer le péché, puis tout ça, elle devient libertinage. Ouais. Ouais, c'est ça, comme vous dites. Et finalement, elle s'éloigne de Dieu, des plans de Dieu, elle continue une religion qui ressemble, mais c'est plus le peuple de Dieu. Okay? Et là, les jeunes sont déçus, ils se révoltent, ils font un « Jesus movement », puis là, il y a des réveils qui se passent et les gens reviennent à Dieu. Qu'est-ce qui arrive quand on devient moins tolérant, pas moins tolérant, on devient moins ou plus ouvert à laisser les voix qui ne sont pas de Dieu entrer dans nos vies, dans l'Église, puis tout ça. Si l'Église veut continuer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient légaliste. Fait qu'on continue à avoir le même langage, mais finalement, Jésus n'est pas notre Seigneur à tous les jours. Ce qui se prêche le dimanche, ça a l'air beau. Mais être légaliste, c'est quoi? C'est souvent, c'est une église où les leaders prêchent ce qu'ils ne font pas. Et Jésus a parlé de ça lorsqu'il parlait aux pharisiens. Hein? Puis il a même dit à ses disciples, « Faites ce que les pharisiens vous disent, mais ne faites pas comme eux autres. Hein? » Et souvent, c'est ça qui se passe. Pourquoi? Parce que le purifie mon cœur, ben, la personne qui le prêche, purifiez vos cœurs. Mais elle oublie de demander à Dieu, purifie mon cœur. À ce moment-là, ça devient légaliste parce qu'il force les gens à vivre selon Dieu sans être un exemple de Seigneur, purifie-moi. Et sans inviter les gens à dire, regarde, c'est personnel en toi, puis Dieu, cherche Dieu et demande à Dieu de marcher de façon pure devant lui. Et avec le temps, ce qui s'est passé dans l'histoire, ben, Dieu ne faisait plus partie du peuple. On passait par des intermédiaires, par des prêtres, par des rituels, par des sacrements, okay? Au lieu d'avoir cette vie de l'esprit dans chacun des personnes. Ça, c'est du légalisme. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut la vie en nous. Et pour avoir la vie en nous, il faut avoir cette attitude de cœur. Seigneur, purifie mon cœur. Je vais vous raconter quelque chose qui m'a touché, que j'ai lu dernièrement. Vous savez, il y a eu un gros réveil. J'avais parlé qu'après la réforme de Martin Luther, lorsqu'il a ramené les gens qui avaient plein d'intermédiaires justement entre eux et Dieu, au fait qu'on est sauvé par la foi. Donc, c'est une relation personnelle avec Dieu. Et après ça, les Anabaptistes qui sont arrivés, puis ils disent, oui, mais c'est pas juste ça, ça prend un engagement pour que Dieu soit le Seigneur de notre vie à tous les jours de notre vie. Okay? Mais c'est sûr qu'il y a un paquet de dénominations qui sont nées sur la terre, mais qui ont vécu encore la même chose, le refroidissement et tout ça. Et Dieu a envoyé des mouvements de réveil. Et à la fin du 18e siècle, dans les années 1700, il y a eu un gros réveil en Europe et en Amérique. Et de ce réveil-là est née la conscience parmi les chrétiens qui étaient réveillés. Jésus, réveille-moi. Qu'on ne marchait pas vraiment selon les voies de Dieu. On allait à l'église, on faisait tout ce qu'il fallait, on faisait tous les rituels, mais on ne marchait pas. Et là, il y a eu un mouvement spirituel qui s'appelait le mouvement de sainteté, hein? Le Holiness Movement, au début des années 1800. Ça, c'est né d'un réveil. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça l'a créé plein de réveils. Et je vais vous lire un texte que j'ai lu, que je trouvais ça intéressant. Ça dit, après la... Attends un petit peu, je vais essayer de me trouver mon affaire. OK. Je l'ai ici. Il y a vraiment un bug avec mon PowerPoint, je m'excuse, hein, mais c'est parce que j'ai écrit un gros texte, puis je ne suis pas capable de le faire défiler. OK. Ça dit, le mouvement de sainteté considérait... Attends un petit peu. Non, c'est pas ça. Je sais pas si je vais être capable de vous le lire. Ça dit, le mouvement de sainteté était la force dominante du protestantisme américain du 19e siècle. Sa préoccupation centrale était de promouvoir la sanctification des croyants chrétiens par une deuxième œuvre de grâce qui suivait après la conversion. Okay? Et c'est intéressant de voir ici que c'était un mouvement de l'esprit. Okay? On parle beaucoup du baptême du Saint-Esprit aujourd'hui en faisant référence au don de puissance, hein? Le don de guérison, le don des langues, le don d'interprétation, les paroles de connaissance, le don de prophétie, tout ça. Mais ici, on parle d'un baptême du Saint-Esprit dans la sainteté. Il y avait une conviction puissante que les gens voulaient marcher dans la sainteté selon Dieu. Okay? Et ce mouvement-là a créé par la suite un paquet d'autres mouvements qui sont nés de ce mouvement-là. Ça dit, le mouvement de sainteté considérait également l'activisme social comme la réalisation active de la sainteté personnelle. Dans les années 1830, le mouvement a émergé d'une réunion tous les mardis soirs qu'une dame, Mme Palmer, a faisait. Les femmes, hein, on a besoin des femmes. Hein? Tous les mardis soirs, il y avait une soirée, et ce soirée-là, c'était pour encourager les gens à marcher dans la sainteté. Et c'est un mouvement qui s'est répandu aux États-Unis, puis finalement dans plein de pays du monde. Ce désir-là de marcher dans la sainteté. Donc, ça faisait partie de la tradition du renouveau américain, du revivaliste américain qui avait ses racines au 18e siècle, comme je vous disais. L'enseignement wesleyen sur la perfection chrétienne s'est mélangé au revivalisme américain et a été soutenu par plein de leaders de dénominations du temps, produisant une atmosphère dramatique et pleine d'attentes dans la période qui a précédé la guerre civile. Cette attente a contribué en partie à l'association avec les dirigeants du mouvement pour la sainteté et l'activisme social sur les causes telles que l'abolition de l'esclavage, l'aide aux pauvres, la tempérance, le droit des femmes. L'événement central dramatique dans l'histoire du mouvement de sainteté fut le réveil laïque de 1858 qui résonna à travers les États-Unis ainsi qu'au Canada et en Grande-Bretagne. Ce renouveau a commencé par une série de réunions de prières quotidiennes et finalement, de là est né plein de dénominations, de mouvements, dont l'Armée du Salut et plein d'autres dénominations chrétiennes qui sont nées de ça. Et, bien entendu, c'est tous des mouvements qui ont encore leur répercussion aujourd'hui et qui a continué et même a formé le mouvement pentecôtiste qui est né, finalement, de tous ces réveils-là nés du mouvement de sainteté. Donc, quand un peuple décide de dire, moi, non seulement je veux croire, non seulement je veux pratiquer ma religion, mais je veux vivre dans la sainteté comme Dieu me le demande. Le Saint-Esprit est vraiment au rendez-vous. Puis il se passe vraiment des choses. Et on a soif de ça. Oui, merci Jésus. On a soif de ça, on parle sans arrêter, on veut te voir à l'œuvre. Seigneur, fais des miracles. Seigneur, viens, sauve des âmes, viens autour de nous. Mais ça passe par un désir personnel pour chacun des chrétiens. Seigneur, purifie-moi. Paul, dans 2 Corinthiens, il dit, « Puisque nous avons de si belles promesses, » et là, il est en train de parler de ce qu'il vient juste de dire avant, quand Dieu il dit, « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. » Il dit, « Puisque nous avons de si belles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. » Paul a passé sa vie à répandre le royaume des cieux partout, dans l'Asie et dans l'est de l'Europe. Et il y avait vraiment ce souci-là de sainteté, parce qu'il savait que rien n'avancerait sans ça. Et c'est pour ça qu'il revient souvent là-dessus, Paul, dans ses lettres. Moi, j'ai soif de voir la gloire de Dieu remplir Lanaudière et le Québec. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. Et j'ai besoin de chacun. Chacun de nous, moi inclus, moi le premier, qui dit à Dieu, « Dieu, purifie mon cœur. » Purifie mon cœur, ce n'est pas juste des paroles, c'est une action. Je m'arrête et je demande à Dieu de m'examiner, de me chercher, de me révéler. Seigneur, je veux être transformé par toi. D'où est la source de toutes ces choses-là qui sont en dedans de nous autres et qu'on n'aime pas. C'est quoi l'antidote? C'est quoi notre part? Hein? Je vous défile ça en quelques minutes. La source, Jésus nous le dit. C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, la méchanceté, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Pas pour rien que Jésus était capable de prier avant de partir. Seigneur, je te demande pas de les retirer du monde. Parce que toutes ces choses-là, ça ne vient pas du monde. Ça vient d'en dedans. Je te demande de les préserver du mal. Et Jésus a toujours invité son peuple à s'approcher de lui, à le chercher, à faire de lui son Seigneur, afin qu'il puisse faire la job de ce qui est en dedans. Amen. Ça vient en dedans de nous autres, donc il faut s'arrêter. Il faut laisser Dieu nous examiner et nous explorer pour pouvoir profiter pleinement de l'antidote. Ça dit, le Fils est le reflet de la gloire de Dieu et l'expression de sa personne. En parlant de Jésus, il soutient tout par sa parole puissante après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Jésus avait un intérêt pour chaque individu. Il y a un intérêt pour chacun de nous autres. Mais il y avait aussi un intérêt pour le monde qui ne le connaissent pas encore. Donc son appel a fait son œuvre sur la croix pour nous purifier. Il l'a fait pour nous individuellement et il le fait pour que par nous, qui acceptons de dire « Seigneur, purifie mon cœur », il puisse changer le monde progressivement et rejoindre plein de gens. Donc Dieu veut un peuple, il veut le purifier. Il veut le rendre zélé et puissant pour des œuvres qu'il veut faire sur la terre. Purifier et zélé, donc puissant, ça va ensemble. Pour ça, il nous a envoyé son esprit et il nous a donné sa parole. Ça dit, il s'est donné lui-même pour l'Église afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de sa parole. Donc, on a besoin de sa parole. Okay? Il disait même à ses disciples, « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Mais en même temps, il leur dit, « Déjà, vous êtes purs, mais restez connectés à moi si vous voulez rester purs et continuer de voir ma gloire et de faire les œuvres que je veux faire par vous autres. » Donc, notre part, on est appelé à demander à Dieu, à chaque jour de notre vie, « Sois mon Seigneur, je veux marcher dans tes voies, j'ai de la misère, donc purifie mon cœur, Seigneur. » J'ai des obstacles que je ne comprends pas. Délivre-moi de ce corps de mort, comme disait Paul, qui veut faire plein de choses que je ne veux pas. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Donc, Dieu nous a donné un antidote qui vient d'en haut. OK? Mais ce qui est intéressant, la croix n'est pas juste verticale, elle est aussi horizontale. Donc, il dit aussi, « Avouez-vous vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » La prière du juste agit avec une grande force. C'est pas juste vertical que ça se passe, c'est aussi horizontal. C'est ça qu'on veut vivre cette semaine. Hein? On veut demander à Dieu de prendre du temps personnel avec lui. On veut aussi se rencontrer et prier les uns pour les autres. Parce que les deux ont une puissance aussi grande pour nous aider dans notre marche vers la sainteté. J'aime beaucoup ici la manière que ça dit « Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » Et Jésus nous montre par ça que tout ce qui n'est pas de lui en nous nous empêche de vivre sainement dans notre corps. Et Dieu veut nous guérir. On est malade, mais Dieu veut qu'on soit guéri. Amen. Ça, c'est son désir. En fait, on sait que c'est toute l'année, ce n'est pas juste cette semaine. On veut mettre l'emphase dessus cette semaine. Mais l'appel est pour tout le temps, pour toute l'année, pour toute notre vie. Seigneur, purifie mon cœur. Comme Paul, l'apôtre Paul, Jacques était le frère de Jésus, le frère biologique de Jésus sur la terre, bien biologique jusqu'à un certain point. Jésus est né de l'Esprit Saint, mais en tout cas, il y avait le même père et la même mère, Joseph et Marie. Jésus était adopté, lui. OK. Mais c'est quand même la même famille. OK? Il y avait ce souci-là. Moi, je me mets dans la peau de Jacques, qui a vécu son enfance avec Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus n'a jamais fait de péché. Hein, ça va être intimidant d'avoir un frère qui n'a jamais fait de péché dans ta vie. Au début, il y a des passages bibliques qui nous montrent que ses frères à Jésus le trouvaient un peu weird, puis il n'était pas prêt à embarquer dans sa patente, là. Mais on sait qu'après la mort et la résurrection de Jésus, ils se sont convertis. Et Jacques et un d'eux autres. Donc, lui aussi avait un souci de la pureté de l'Église. Okay? Et il encourageait l'Église à être saint, sachant que c'est essentiel pour la vraie liberté. Et il dit, dans le Jacques 5, 16, avouez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres. OK, ça, je l'ai lu. Excusez, je radote. OK, l'autre passage que je voulais apporter, c'est celle-là. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes partagés. Pour le vrai, je n'oserais pas dire quelque chose comme ça. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes partagés. Juste à me regarder moi-même, je n'oserais pas dire ça à personne. Je me le dirais à moi, mais je n'oserais pas le dire à d'autres. Mais lui avait l'autorité de le dire. Dieu lui a donné. Et on sait le souci qu'il y avait en arrière, hein? Que les gens soient libres. Cette semaine, on veut que Dieu sonde nos cœurs et qu'il fasse sortir à la lumière tout ce qu'on ne voit plus. Parce que des fois, on est aveugle par des choses qui sont en nous autres. Le psaume 139 est intéressant. Il commence en disant, « Éternel, tu m'examines, tu me connais, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée, tu sais quand je marche, quand je me couche. » Et tout le psaume continue comme ça. « Dieu, tu sais tout de moi, là. Tu connais mes recoins les plus profonds. » Et c'est intéressant de voir comment que le même psaume finit. Il dit, « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Ça peut être bizarre de dire. Ils viennent de le dire pendant un psaume au complet qu'il connaît tout, puis là, il demande de l'examiner, comme si Dieu avait besoin de le connaître. Pourquoi qu'il demande ça? Parce qu'il veut que Dieu lui révèle ce que lui ne voit pas. Hein? Donc, il lui dit, « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Et conduis-moi sur la voie d'éternité. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, j'ai besoin d'être pur pour être sur la voie de l'éternité. Mais pour ça, il faut que tu m'examines. Il y a des choses que je ne vois pas en dedans de moi. J'ai besoin d'y voir. Examine-moi, révèle-moi-les. Seigneur, mon désir, c'est d'être pur devant toi. Seigneur, purifie mon cœur. Quand on regarde la vie de David, on pourrait penser que sa relation était juste verticale. Mais David a eu besoin de l'horizontale dans sa vie. Et lorsque, dans la période la plus sombre de sa vie, lorsqu'il a commis l'adultère avec une femme mariée et qui a tué son mari pour pouvoir se cacher. Il était aveuglé, il ne voyait pas. Il a fallu que Dieu y envoie l'horizontale, un prophète pour lui parler, un frère pour lui dire et lui parler d'homme à homme. Et c'est comme ça qu'il s'est réveillé. On a besoin les uns des autres pour se réveiller. Mais regardez le cœur de David. Oh, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à la grande compassion. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi et contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Conformément à ta bonté. David savait que Dieu était bon, mais il était aveuglé par son péché. Il a fallu que quelqu'un vienne lui dire, mais il n'est pas resté là-dessus. Il a dit, ouais. Je n'ai pas le goût de rester dans cette condition-là. Je n'ai surtout pas le goût de couper ma relation avec Dieu. Probablement qu'elle était déjà coupée. Probablement qu'il reconnaissait qu'il ne sentait plus comme avant. Non, il ne voulait pas rester comme ça. Il continue. Il dit, oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Il savait déjà ce que Jésus avait enseigné, que ça vient d'en dedans. Il s'en est aperçu. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface mes fautes. C'est sûr que David ne vivait plus dans la joie qu'il avait connue. Là, il avait le goût de retrouver la joie. Là, il avait mis le doigt sur le bobo. Pas lui, quelqu'un, un frère, qui en avait parlé. Et là, il dit, c'est pour ça que je suis heureux. J'ai le goût de retrouver cette joie-là. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutiennent. Amen. David, était-tu centré sur son nombril, vous pensez, en faisant ça, puis il pensait juste à sa relation avec Dieu? On pourrait penser que oui, il avait vraiment une belle relation avec Dieu, puis ça pouvait peut-être le satisfaire. Mais étant donné qu'il avait une relation avec Dieu, son souci n'était pas juste lui. Et c'est intéressant, ce même psaume-là, le psaume 51, où il se repent, où il renoue avec Dieu, regardez comment ça continue. Premièrement, il dit, « Si tu aurais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. » Et là, il continue en disant, « Dans ta grâce, fais du bien à Sion. Construis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes, et aux victimes tout entières, alors on offrira des taureaux sur ton autel. » Le souci de David, ce n'était pas juste lui, c'était aussi son pays, sa nation, sa mission. Quand on dit à Dieu, purifie mon cœur, puis je vais inviter peut-être. Je vois Lourdes, tu peux-tu venir nous jouer du piano? T'avais-tu un chant de plus à faire? Hein? Ben, les musiciens venaient tout d'abord. OK, je fais une pause. Allez chercher le pain et le vin. On va prendre la communion en terminant, OK? Amen. Je ne voulais pas qu'on finisse sans prendre le repas du Seigneur, qui est vraiment ce qui nous ouvre les portes vers la purification, vers la liberté, vers ce que Jésus a voulu faire lorsqu'il est venu et qu'il est monté jusqu'à la croix. Amen. Merci. Amen. Pendant que vous allez chercher le pain et le vin, que vous revenez à votre place, je vais vous citer ce verset que Daniel, des centaines d'années avant Jésus-Christ, a prophétisé sur nous, son peuple. En parlant du futur, de ce que Dieu était pour faire par Jésus-Christ, il dit « Beaucoup seront purifiés. » Intéressant, hein? Déjà des centaines d'années avant Jésus-Christ, Daniel prophétisait « Beaucoup seront purifiés, épurés et affinés. » Il dit « Les méchants feront le mal et aucun d'eux ne comprendra. » Et ça, c'est vrai pour nous quand on se met sur une route où on laisse entrer le péché. On ne comprend plus qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. On vient confus. Il dit « Les méchants feront le mal et aucun d'eux ne comprendra. Tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront. » Lorsqu'on revient à Christ, lorsqu'on se repent de ce qu'on s'est aperçu, soit par nous-mêmes, soit par l'Esprit, soit parce que quelqu'un nous a parlé, soudainement, on comprend à nouveau. Et on se dit, « Wow, qu'est-ce que je faisais là? » J'étais dans le champ. « Seigneur, purifie mon cœur. » Quand je dis à Dieu, « Purifie mon cœur », je ne pense pas juste à moi. Parce que je le sais que si mon cœur n'est pas pur, ma femme va en souffrir. Je sais que ma famille va en souffrir. Je sais que mon église va en souffrir. Je sais que mon entourage va en souffrir. Je sais que la mission que Dieu m'a donnée va en souffrir. C'est pour ça que j'en veux pas du péché dans ma vie. Pourtant, il est là, il frappe constamment à ma porte en dedans de moi. C'est pour ça que j'ai besoin de m'arrêter et dire à Jésus, « Jésus, purifie mon cœur. » C'est pour ça qu'on a besoin de s'arrêter cette semaine et prendre du temps. Comme un tremplin vers la suite de cette semaine où ça va être un style de vie. Seigneur, purifie mon cœur. Merci Jésus pour ton corps donné pour nous.